un podcast France Culture.
Le revers de la médaille, c'est une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Somaya Dabesh et proposée par Les Pieds sur Terre. Tout de suite, troisième épisode, les athlètes sont des toxicomanes comme les autres.
Allô Adila ?
Ce « allô » a fait bondir mon cœur dans ma poitrine. Quand je l'entends, ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas de nouvelles de Yona, la lanceuse de javelot que je suis dans sa préparation olympique. 2 mois qu'elle est partie pour la Nouvelle-Calédonie pour suivre un entraînement que je sais ultra intensif. Et ce long silence m'a inquiétée. S'est-elle blessée ? A-t-elle abandonné ?
Ouais, au début, je t'ai pas rappelé parce que j'arrivais plus à parler. J'étais toujours en train de chercher mes mots, j'étais tout le temps en train de bégayer, j'arrivais plus à m'exprimer et c'était sûrement dû peut-être à du surentraînement. Avec mon entraîneur, on en a discuté et lui, il est à fond sur la mécanique, il répare des voitures et il m'a expliqué que des fois, quand tu améliores une voiture, tu l'améliores, donc elle va devenir de plus en plus rapide. Mais il y a un petit moment où tu fais la modification de trop, et là, c'est comme si le moteur il était trop puissant par rapport à l'extérieur de la voiture, et on entend un cliquetis. Et donc, on a décidé à ce moment-là de vraiment diminuer le volume d'entraînement et progressivement, j'ai retrouvé ma voix. Mais en fait, ça a été une période extrêmement difficile pour moi.
La seule fois de ma vie où j'ai eu affaire à une coach, en l'occurrence, c'était une coach pour célibataire, elle a, elle aussi, utilisé une métaphore automobile. Elle voulait que je choisisse mon compagnon comme une voiture. En fait, on est assez familier avec le discours d'un entraîneur parce qu'on est très nombreux à aller voir des coachs ou bien à lire des livres de développement personnel. On veut développer nos potentiels, dépasser nos limites pour arriver à la meilleure version de nous-mêmes. Et les athlètes sont l'incarnation de cet individu idéal, débarrassé de son histoire ou de sa classe sociale et dont la réussite ne dépend que de lui-même. Cet individu automobile, à qui il suffit de changer une pièce ou mettre un meilleur carburant. Alors quoi d'étonnant à ce qu'un certain nombre d'athlètes choisissent des carburants très efficaces, mais interdits. Stéphane de Soulty l'a fait par le passé. Et il est l'un des rares athlètes français à parler librement de dopage.
Je m'appelle Stéphane de Soulty, j'ai 51 ans. Donc j'ai été 12 fois champion de France sur 3000 mètres steeple et puis après j'ai été dans les 10 meilleurs mondiaux sur 3000 mètres steeple et dans les 3 meilleurs européens dans les années 2000 aussi. 3000 mètres steeple c'est un 3 km avec 35 obstacles. Tous les 80 mètres il y a un obstacle dont une rivière et en fait c'est une course qui est atypique, c'est où elle convient ou elle convient pas. Et si elle convient, en général elle convient très bien. Alors, j'ai commencé à me doper en 2001, donc j'avais 31 ans. Mais en fait, le dopage, il est commencé bien avant, en fait. Quand j'avais 17 ans, ce que j'explique, c'est que j'ai fait une compétition, un championnat du département de cross. J'étais junior et lors de cette épreuve, j'ai fini 9e alors que j'aurais dû gagner aisément. Et à la fin de la course, mon entraîneur m'a vu complètement dépité, effondré, et il m'a dit « t'inquiète pas, demain on va aller voir ton médecin sportif ». Et le médecin m'a prescrit du fer, et je vous cache pas que tellement j'en manquais que j'ai grimpé aux arbres. Et là, il y a eu une forme de réaction en chaîne qui s'est établie, c'est que je suis devenu addict au fer. Autour du fer, après, j'ai découvert que il y a des vitamines, de la B1, de la B6, de la B12. Après, il y a du magnésium, du calcium, etc. Et tous ces médicaments, j'ai fini par les prendre par voie intraveineuse. C'est simple, le jour où j'ai fait ça, j'ai attendu que je sois tout seul chez moi, et c'était une démarche de camé, quoi. Je me suis garrotté, et donc j'ai utilisé par déduction le même système qu'on peut utiliser quand on va faire un bilan sanguin dans un laboratoire. J'ai utilisé une cravate. Donc, une autre cravate que j'ai resserrée, et puis bah j'ai piqué là, au même endroit où les gens faisaient ma prise de sang. La première fois où le magnésium est rentré dans mon sang, j'ai eu une réaction où j'ai commencé à avoir des échauffements au niveau du crâne, des échauffements au niveau de ma région du bassin. J'ai eu très très peur. Mais comme c'est passé très très vite, et puis derrière les sensations à l'entraînement ont commencé à arriver, j'ai banalisé le geste en fait. En fait, j'ai commencé à faire mes recherches, à étudier un petit peu justement le transport de l'oxygène dans le sang, la physiologie humaine de l'effort sportif. J'étais dans des bibliothèques, j'étais sur Internet, j'ai été sur des forums. C'est là que j'ai décidé de me fabriquer des ordonnances et j'ai décidé de me les acquérir par moi-même. Un jour, j'étais chez le médecin et le médecin a donné du papier à ma fille pour dessiner. Il restait une ordonnance vide dessus. Quand j'ai vu ce que c'était, j'ai été rencontrer un imprimeur. Je me suis fait passer par un médecin et il a accepté de me les reproduire. Et du coup, j'avais le support. Puis après, je me suis prescrit les produits. Puis voilà, après, le truc était lancé, quoi. En fait, on devient un petit chimiste. Je suis devenu un petit chimiste. Mais ce qui se passe, c'est que tous ces protocoles que moi j'ai rédigés, j'ai été les faire valider par des médecins. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris rendez-vous avec des médecins que je savais qui avaient un pignon sur rue chez les athlètes. J'allais les voir pour valider mes protocoles. Alors souvent, les médecins, ils étaient très très prudents. Un des médecins que j'avais été voir à l'époque, quand il nous recevait, c'est nous qui prenions des notes et lui n'écrivait rien, pour pas qu'il y ait de traces écrites. Il fallait payer en liquide, bien sûr. Et puis ces médecins-là, ils vous disaient ce qu'il faut prendre, comment il faut le prendre, etc. Et ils vous disaient où c'est qu'il faut l'acheter. J'étais un tournant de ma carrière où justement où j'ai voulu relancer ma carrière avec ça, quoi. Le dopage, il n'est pas organisé autour des compétitions, il est organisé dans l'entraînement. Avec un objectif, donc en général c'est un grand championnat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on se dope pas pour l'objectif de la compétition, on se dope pour avoir les capacités d'assimiler un dur entraînement qui nous permet d'accéder justement à cette performance et à ce niveau de performance pour pouvoir acquérir l'objectif de la compétition. Moi, je me faisais des stages de préparation dans lesquels j'intégrais mes protocoles, donc ça durait en général 6 semaines. Je faisais 6 semaines et 15 jours de non-médicamentation. Et après, je reprenais 6 semaines et après, je rentrais en compétition. Alors, bien sûr, la performance qu'on peut faire avec des médicaments, ça reste 10% de la performance. On ne fait pas nanane à cheval de course. C'est l'expression qui dit ça, mais c'est pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de qualité, il peut prendre n'importe quel médicament et va progresser un peu. Mais ça ne sera pas un champion. Et après, le PO est devenu détectable dans les années 2000-2001. Et moi, j'ai réussi à acquérir le protocole de détection de l'EPO. Alors, c'était très simple. Il était en ligne sur l'AMA, l'Agence Mondiale Antidopage. On pouvait le télécharger. C'était en anglais. Je l'ai fait traduire. Et en fait, en lisant ça, on savait exactement comment faire pour pas se faire gauler. Le PO, c'est pas comme une substance stupéfiante comme de la cocaïne qui va faire un effet immédiat. C'est une substance qui va faire un effet sur du long terme. Donc en fait, on va pas le sentir subitement, mais on va le sentir de façon continuelle. Mais par contre, à un moment donné, on va être en haut d'une montagne sans avoir eu l'impression de monter. C'est assez euphorisant. Alors c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je prenais quasiment à un moment donné 24 produits différents par semaine, c'est colossal. Mais le truc, c'est que pendant ce temps-là, j'ai changé vraiment de comportement, de personnalité. Mon corps, il a commencé à changer et ça a alerté personne. Et c'est vrai que personne l'a vu, quoi. Et je suis intimement convaincu que le sport du niveau, c'est pas bon pour la santé. Le corps, il n'est pas fait pour faire 160 km par semaine. Il n'est pas fait pour franchir 35 obstacles Le corps a besoin de plus de calme et d'harmonie pour pouvoir vivre longtemps. Et puis c'est vrai que à cette époque de ma vie, j'avais quand même l'inconscience et l'insouciance de pas me dire c'est dangereux pour la santé. Mais c'est aussi que il n'y avait pas encore eu tous ces morts. Il n'y avait pas eu Laurent Fignon qui est mort à 50 ans. Il n'y avait pas eu ces chocs d'athlètes qui ont recouru à des produits et qui les ont quittés très tôt. Ben, ça s'est arrêté parce que je devais de l'argent dans un hôpital que je n'avais pas pu payer mes substances de PO. Et donc je suis revenu payer parce que je devais 637 €. Je suis revenu payer et en fait quand je suis venu payer, ils avaient fait une enquête. Ils ont appelé la police et puis ils m'ont arrêté quoi. Je voulais tricher mais pas voler. J'essayais d'anoblir cette tricherie. J'ai eu une période très difficile dans les années qui ont suivi parce que comme j'ai pas été accompagné, je me suis perdu socialement et sportivement. J'ai complètement arrêté le sport et j'ai pas fait de sport pendant 10 ans. Du jour au lendemain, c'est-à-dire que je suis passé d'une garde à vue à zéro sport, alors que je m'entraînais 14 fois par semaine. Je me suis un peu cherché pendant 10-15 ans, quoi. Je me suis un peu cherché. J'ai eu quelques conduites addictives. J'ai eu des petits problèmes d'alcool, des petits soucis de drogue. J'ai voulu goûter un peu à tout. Et quand j'ai commencé à goûter à l'alcool, c'était pas goûter, c'était mettre le nez dedans, quoi. L'alcool est devenu un médicament de substitution. Et comme les fédérations ne cherchent pas à ce que les gens s'expriment, en fait, on n'en parle pas, quoi. Et ça dérange de parler de ça. Il y a un gros travail à faire là-dedans. Parce que si j'en suis venu là, c'est pas que de ma faute. Il y a un contexte qui peut l'expliquer. Et si on développe l'aspect de ce contexte qu'on peut l'expliquer, on peut vraiment faire en sorte que les jeunes ne prennent pas ce chemin. Parce que c'est vraiment un chemin de merde.
Ce qui est troublant, c'est qu'on sait ce que c'est que de consommer des substances qui améliorent nos expériences. Que ce soit du café pour bosser ou un verre de vin pour faciliter la conversation. Eh bien, les sportifs, c'est pareil. Ils consomment tous des compléments alimentaires, des boissons énergétiques et même certains médicaments. En fait, ce n'est pas le dopage qui est interdit, ce sont seulement certains produits. En dehors de ces produits, on est libre d'améliorer ses performances comme on veut. Et en isolant des athlètes comme Stéphane de Solti, en faisant de ceux qui ont franchi la limite de la légalité des monstres, on s'interdit de penser la relation qu'entretiennent les athlètes en général avec leur corps et leurs performances. Fort heureusement, il arrive parfois que les malheurs de dopage des uns fassent le bonheur des autres.
Manuela Montebrun, donc je faisais du lancer de marteau, j'ai 44 ans et j'ai été 9 fois championne de France au lancer de marteau. Alors j'ai fait 3 Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de Sydney en 2000, Athènes en 2004 et Pékin en 2008. Je me suis pas levé un matin en me disant tiens je vais aller faire du lancer de marteau. Non, moi on m'a repéré sur une compétition scolaire, je faisais les championnats départementaux de la Mayenne en athlétisme, j'avais ma licence dans le club. Et puis sur ces championnats, on m'a dit « Est-ce que tu veux essayer le marteau ?» Alors faut savoir que historiquement, le marteau, c'était nouveau. Hein. Moi, j'avais jamais vu un marteau, je savais même pas ce que c'était. Enfin voilà, pourquoi pas. Et puis c'est parti comme ça. Alors, des fois, on me demande « Oui, je suis médaille olympique. » Enfin, la particularité, c'est que j'ai récupéré la médaille 9 ans après. Mais après, ça reste maintenant une médaille olympique. Hein, donc... Et je l'ai eu aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. Donc sur place, je finis 5e. Et devant moi, il y a 2 Biélorusses. De faire 5e avec 72 mètres, c'était mon meilleur lancé en jeu, au jeu. Donc j'étais plutôt contente en fait. Je suis pas ressortie frustrée ou déçue de la compétition en tout cas.
Et est-ce que le retour des JO, ça se fait différemment quand on rentre sans médaille et quand on rentre avec une médaille ?
Quand c'est loin à l'autre bout du monde, oui, ça peut être différent. C'est-à-dire en médaille, on va être en première classe, alors que sans la médaille, eh ben, on est à côté des toilettes. Ça peut être ça la différence. Alors c'est très bête, hein, c'est très premier degré, mais à un moment, moi, j'ai jamais voyagé en business ou en première classe dans un avion, hein, donc j'aurais bien aimé avoir cette expérience. Hein. La grosse différence aussi, c'est à l'époque, bah, les médaillés sont reçus à l'Élysée, ils sont reçus, voilà, enfin voilà, y a tout ça. Hein, c'est des choses que bah, moi, j'ai pas forcément connues, quoi, après. Voilà, après, je sais pas. Enfin, si, c'est parce que j'arrête le sport, puisque voilà, j'ai plus l'âge, et puis voilà, il est temps d'arrêter, j'ai envie de dire. Et du coup, bah, j'apprends que j'ai une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, quoi. Mais c'est 9 ans après, ça, c'est pas dans l'immédiat, quoi. J'apprends ça par un journaliste qui doit m'appeler pour avoir ma réaction, en fait. Et donc, du coup, c'est lui qui me l'a appris. Il me dit, oui, il y a une Biélorusse qui s'est fait disqualifier, donc vous récupérez une médaille de bronze, etc. Je dis, ben non. Non, non, j'étais cinquième. Donc, s'il y a une Biélorusse qui se fait disqualifier, je suis quatrième, je suis pas... Ah non, non, mais l'autre, il y a une autre Biélorusse mais qui s'est fait disqualifier il y a 2-3 mois. Donc, de cinquième, je passe à troisième. Et donc, voilà, je récupère la médaille de bronze, quoi. Après, c'est vrai que je l'appelle la médaille d'occasion, puisque forcément, j'ai récupéré la médaille que la Chinoise avait eue. Pour recontextualiser, la Chinoise, c'est une, pas une de celles qui ont été prises pour dopage, c'est une qui a regagné aussi une place. Et c'est bien la médaille que la Chinoise avait eue, c'est-à-dire le ruban, on voyait bien que c'était pas un ruban neuf, quoi. C'est pour ça que je dis souvent, c'est j'ai eu la médaille d'occasion, quoi. Ça m'est déjà arrivé pour un championnat du monde de récupérer une médaille, pareil, 8 ans après. En gros, même principe, hein. Encore pire, parce que sur le jour du championnat, je fais quatrième, ce qu'on appelle vulgairement la place de la conne, quoi. Et puis, bah, pareil, alors là, c'était pas une Biélorusse, c'était une Russe. Donc moi, je gagne une place, donc je passe troisième. Donc c'est le même système, hein, donc je récupère la médaille après, quoi, en 2014.
Pourquoi elles ont été disqualifiées, ces concurrentes qui vous ont cédé leur médaille?
Bah, elles sont fait prendre pour dopage, elles avaient pris des produits interdits, hein, donc les noms des produits, moi je serais incapable de redire maintenant. Et du coup, forcément, bah, elles sont disqualifiées, quoi. Donc il y avait contrôle antidopage le jour de la compétition, à la fin, quoi. Il y a eu des analyses de fait, elles étaient négatives. Et ils avaient alors 9 ans pour refaire des tests sur les mêmes échantillons. Parce que forcément, la recherche avance. Donc un produit qu'on ne savait pas détecter, par exemple, en 2005, eh ben, en 2012 ou en 2013, on sait le détecter. Et du coup, ils retestent les échantillons, et là, bah, hop, un produit qu'ils ont pu détecter, et donc contrôle antidopage positif, donc annulation des résultats pour la personne, quoi.
C'est des échantillons de quoi? C'est des prises de sang?
Non, c'était des échantillons d'urine. L'image, je me dis, ah, il doit y avoir un truc, le conteneur à échantillons d'urine, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi.
Est-ce que normalement, on a une récompense financière quand on a une médaille?
Pour les Jeux Olympiques, bah, c'est l'État, hein, français qui donne des primes pour les médaillés. Et donc là, alors, il y a eu un lutteur qui a récupéré une médaille des JO de Pékin aussi, quelques mois avant moi, on va dire. Et j'ai vu dans un article qu'il avait récupéré la prime. Alors j'ai fait, moi je veux bien être le dindon de la farce. C'est-à-dire, si personne ne la touche, voilà, c'est comme ça, bah, c'est pas de bol, 8 ans après, on n'a pas la prime. Mais là, sachant qu'il y a quelqu'un qui l'avait eu, alors là par contre, je vois pas pourquoi moi je l'aurais pas. Donc moi j'ai quémandé, hein. Et à la fin j'ai eu la prime quand même, 10 ans, enfin voilà, 8 ans après, je l'ai eu. Je crois que c'était 10 000 euros. Pour un sprinter c'est peut-être rien, mais voilà, pour une lanceuse c'est pas négligeable.
Et est-ce que vous pensez que si vous aviez eu cette médaille, la suite de votre carrière aurait été différente?
On peut pas savoir en fait. En tout cas, l'année qui suit le championnat, j'aurais eu sûrement des meilleures primes d'engagement. C'est pas le même statut, du coup financièrement... Il y aurait eu des choses différentes, quoi. Moi, c'est un bilan comptable. Donc, j'arrête ma carrière, j'ai une médaille au championnat du monde et une médaille au championnat d'Europe. Voilà. Donc, après, maintenant, j'en ai 4. Donc, j'ai eu autant de médailles après ma carrière qu'avant ma carrière. Alors, j'ai autant de médailles à la retraite qu'avant, quoi. Bon, bah, c'est comme ça.
Frédéric, le lanceur de poids que j'espère voir sélectionné au JO, ne se dope pas. Il se contente de la méthode à l'ancienne. Après quelques semaines, je le retrouve en train de soulever de la fonte dans son garage transformé en salle d'entraînement.
Là, il y a le principal et tout ce qui
un coup de peinture orange et quelques machines achetées sur le bon coin lui épargnent un abonnement coûteux dans une salle de sport.
Avec une roue à inertie, là, c'était plus pour Dorian que pour moi. Moi, peut-être faire un peu de récup ou des choses comme ça. Mais c'est pas mal, je trouve, pour travailler pour elle.
Et puis, cette salle familiale permet aussi à Frédéric de superviser le programme de remise en forme de sa compagne, Dorian, après son accouchement.
Monsieur, malgré tout, c'est sérieux, hein, l'entraînement de Dorian. Hein. C'est suivi, c'est écrit sur le calepin.
Donc moi, c'est Dorian et j'ai 27 ans. On s'est rencontrés, j'étais toute jeune. Ça va faire 6 ans, dans 6 jours. J'avais 21 ans et encore, je l'ai connu, j'avais 20 ans, parce qu'on s'était connus un an avant. Donc ouais, c'était toute jeune et fêtarde. Il faut accepter qu'il doit s'entraîner, même quand on va en vacances, ben, faut qu'il trouve une salle pour s'entraîner. Il faut accepter que des fois, il finisse tard, que dans la journée, il faut absolument qu'il s'entraîne, sinon il n'est pas forcément très bien. Donc ça peut jouer sur son moral, sur nous aussi. Mais après, ça reste pas compliqué. Il est facile et son sport est facile aussi au quotidien à adapter.
Et est-ce que tu t'inquiètes pour les sous ?
Pour les sous, ouais. On s'inquiète toujours pour les sous, clairement. Là, encore un peu plus, parce que moi, j'ai toujours bien gagné ma vie, on va dire. Moi, je suis auxiliaire puériculture à l'hôpital. Donc là, forcément, cette année, ben, je ne travaille pas. Donc voilà. Pour l'instant, c'est un peu compliqué pour mon côté, en tout cas. Pour le sien, ben, il a jamais... Enfin, il gagne bien, il travaille, donc voilà.
Ben oui, il marche bien. Ça, c'est entraînement robe de mariée. Je te prépare pour être en bombe. Hein. Comme ils disent à la télé, toi, tu me fais regarder toutes les télé-réalités alors que je déteste ça. Hein. Je trouve ça absolument nul.
Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé.
C'est ce qui fait que maintenant, au lieu d'avoir un mariage à 5000 euros, on va avoir un mariage à peut-être 3 fois plus.
Mais ça, non, mais ça, c'est pas à cause de ça. Hein. C'est la vie, c'est vrai, non ? Ça coûte cher de se marier maintenant.
Non, mais que ça coûte cher, oui.
C'est pas la télé-réalité.
Mais il y a aussi des gens qui se marient avec 3000 euros. Et ils sont très heureux.
Mais parce qu'ils mangent dans des assiettes en carton.
Et, bah, et donc, tu
mets des ballons de baudruche, ben moi j'ai pas envie de ça.
Ah, peut-être.
Tu veux ça ?
Moi ?
Oui.
Ah, moi je m'en fiche, moi. Ce que je veux, c'est me marier avec toi. C'est tout ce qui m'importe.
Si on peut se marier et puis en plus avoir un truc joli.
Bah oui. J'en conviens. Bon.
La dernière fois que j'ai vu Frédéric et Dorian, il n'était pas encore question de mariage. Et puis, ça me fait tellement plaisir que Frédéric ait un autre objectif que les Jeux Olympiques, qu'il ne soit pas uniquement à la recherche de la meilleure version de lui-même. Je demande à Dorian comment tout ça s'est décidé.
C'est assez rigolo, parce que j'ai une... Ben d'ailleurs, ma future témoin qui était à la maison. Puis étonnamment, elle m'a dit « Je t'ai réservé un resto ». Donc elle m'emmène et tout, et puis elle me fait garer sur un parking un peu loin du resto d'ailleurs, mais j'ai pas forcément percuté. Et puis du coup, ben, moi elle m'a bandé les yeux, et là je me suis dit « Ah, il y a quelque chose qui se trame ». Et du coup, je suis arrivée, les yeux bandés, et puis il m'a débandé les yeux, puis il avait préparé des jolies choses. Il y avait un joli tapis avec un beau bouquet de roses, avec la petite bouteille de champagne, des petites bougies... plein de choses en face du coucher de soleil. Et puis voilà, il m'a mis le petit genou à terre. Hein. Il a fait les choses bien. Hein. Avant ça, il a même demandé à mon papa. On a pleuré et après, j'ai dit oui. Je pense qu'il était tellement stressé. Il m'a dit que ça faisait des mois qu'il avait la bague dans la poche et qu'il ne trouvait jamais le bon moment pour me le demander. Donc ça, il avait la pression. Mais non, ça a été oui, un grand oui. Alors, c'est prévu pour le week-end du 31 août 2024, juste après les Jeux, donc en espérant qu'on fêtera en plus une bonne nouvelle. Mais voilà, donc le week-end du 31 août 2024, on va faire la fête.
C'était le revers de la médaille, troisième épisode. Les athlètes sont des toxicomanes comme les autres. Une série d'Adila Benedjaizou, réalisée par Somaya Dabesh, mixée par Dali Yaha, avec une musique de Gilles Lavanant. À suivre tout de suite l'épisode 4.